Pavlovski, L'étrange voyage. Assis près de mon étroite fenêtre, je vis passer successivement deux hommes couverts de suie, un prêtre accompagné de deux Anglaises, un paysan fumant sa pipe, trois jeunes filles qui ôtaient leurs corsets, puis des officiers, une vieille dame couchée sur des coussins, un jeune homme qui déjeunait, puis encore une foule d'autres personnes qui d'alors passèrent trop vite pour qu'il me fût possible de les bien distinguer, puis brusquement, plus rien. Le train où je me trouvais se mit en route à son tour, et je compris qu'un autre train, venant en sens inverse et bondé de voyageurs, venait de quitter la station. À vrai dire, je ne me sentais pas très rassuré, et l'étrangeté d'un tel spectacle n'était pas sans m'impressionner quelque peu. Nous voyageant depuis des années qu'en automobile, je m'étais décidé par pure curiosité à tenter un voyage en chemin de fer pour connaître enfin, autrement que par ouï dire, ce mode étrange de locomotion. Comme but de cette excursion, je m'étais fixé une petite station balnéaire des bords de la Manche, des plus fréquentées en été, mais en ce mois d'octobre, définitivement abandonnée par tous les Parisiens. Existait-elle réellement en dehors de la saison ? Quelle pouvait être au juste sa vie lorsqu'elle se trouvait séparée de tout pays civilisé par le mauvais temps ? Ce mystère, je l'avoue, m'intriguait au plus haut point. Seul, depuis Paris, dans mon compartiment, je voyais défiler sous mes yeux de petites vallées vertes, noyées d'eau, abandonnées, semblait-il, aux grenouilles. De petites maisons aux toits d'ardoise, vernis de pluie, témoignaient seuls, par leur fumée bleuâtre, la présence des hommes et la possible existence du feu dans ce long aquarium. À mesure que le train s'éloignait de tout centre habité, sur sa petite ligne d'intérêt local, il semblait hésiter et chercher la direction à suivre. Parfois, il montait sur des crêtes pour inspecter l'horizon, puis il redescendait ensuite dans de petites vallées en quête d'un paysan qui pût le renseigner. Il s'arrêta dans une petite gare où un saint homme d'ermite, coiffé d'une casquette, lui donna quelques indications, une caisse de provisions et des lettres de recommandation, puis il repartit avec une nouvelle assurance. À mesure que nous approchions de la mer, la tempête se faisait plus terrible. Un vent dédaigneux et rustique semblait prendre le train pour une flûte de Pan, jouant un air sauvage entre les wagons et reconnaissant ses voix et ses notes à la couleur des voitures. Au surplus, le train commençait à s'enrhumer, éternuant chaque fois qu'il passait sous un pont. Il eut une crise plus forte en traversant un tunnel, crise qui fut aggravée par le croisement d'un train asthmatique. À quelques kilomètres de là, nous fîmes des politesses à un interminable train de marchandises dont les wagons facétieux se couchaient au ras du sol pour passer inaperçus, puis se relevaient brusquement, puis se couchaient encore, ayant l'air de s'amuser comme des enfants. « Coucou, ah, le voilà ! Vous pensiez que c'était fini, tenez, en voici encore !» Ce jeu puéril ne m'amusa guère, et je vis avec plaisir arriver le dernier wagon, où un pion sévère s'apprêtait à serrer la vis au délinquant. De loin en loin, une garde-barrière dévouée, armée d'un drapeau rouge, détournait sur elle la fureur des vaches et des taureaux, comme le plus habile torero. Enfin, la machine se mit à hennir en sentant son écurie. Les deux voix, longtemps contenues, se dédoublèrent à l'infini, comme si elles avaient enlevé leur corset. Je me penchai à la portière, nous arrivions. Un gros éléphant noir, assis au bout du quai, en profita pour me cracher un peu d'eau sur la tête par sa trompe pendante. Le train s'amusa encore à jouer du tambourin sur les plaques tournantes en ligne d'allégresse, comme les Arabes, puis redevint sérieux, râla, s'étrangla avec ses freins qu'il avala de travers, fit des efforts pour cracher et éternuer définitivement. Il devait être assez fatigué, car je crus bien qu'il allait tomber sur les genoux, en s'arrêtant comme un vieux cheval de fiacre. Enfin, il se remit d'aplomb, et je pus descendre. La locomotive, qui par son brusque arrêt avait fait trébucher tous les wagons, riait encore, fumante de sueur, et dans sa joie s'oubliait sous elle. Je constatai avec effroi que j'étais seul dans le train, avec une vieille paysanne qui portait deux canards dans un grand panier. On la laissa passer sans difficulté, avec des sourires d'entente, telle une femme préhistorique ramenant un peu de butin dans la grotte de la tribu. Quant à moi, je vis que ma présence était sévèrement commentée, et je sentis tout de suite que je commettais une grosse inconvenance. En qualité de Parisien, venir en cette saison dans une station balnéaire, mais c'était tomber chez les gens à l'improviste, sans être invité. C'était revenir le lendemain d'un bal ou d'une soirée, assister au déménagement des chaises ou au rangement de la vaisselle. Ma seule présence obligeait à autant de frais généraux que celle de 300 personnes. On ferma précipitamment les barrières de la gare. Le préposé au billet, qui bêchait son petit jardin en manche de chemise, s'élança dans sa lampisterie à la recherche de son veston et de son képi. Le chef de gare, qui donnait un grand dîner sur le quai, se leva et fit semblant de faire partir son train. Je m'en allais, au hasard des rues désertes, le long des villas fermées, qui sûrement à cette époque n'eussent pas reconnu leurs propriétaires. Les rares paysans qui se trouvaient là me regardaient avec méfiance. J'allais déjeuner dans une petite auberge qui se trouvait ouverte. La patronne m'accueillit avec un mauvais sourire et me servit en me regardant comme si elle ayait des boisons. L'hostilité des habitants était évidente. Désœuvré, tandis que je prenais mon café, je vis avec étonnement quelques mouches qui marchaient au plafond, la tête en bas, et cette simple vue me plongea dans un abîme de réflexion. Pourquoi ces insectes tombaient-ils pas? Que devenaient les grands principes de la gravitation universelle? Mais qu'est devenu faire Newton? Je pensais sans doute tout, car j'entendis la voix zézayante d'une vieille mouche me répondre. Pensez-vous que nous allons graviter quand il n'y a personne? Véritablement, vous en avez une santé. Lorsque les Parisiens sont partis, on peut bien tout de même mettre un peu à son aise. Une mouche qui parlait. J'apostrophai, en manière de plaisanterie, un gros chien qui se trouvait là, couché à mes pieds. Et je lui dis, « Eh ben, mon vieux, qu'est-ce que t'en penses de cela? Les mouches qui parlent à présent ?»« Bon, que voulez-vous que cela me fasse ?» répondit négligemment le chien. « Comment ?» fis-je au comble de la surprise. « Un chien qui parle maintenant ?»« Eh bien alors, » fit le chien en haussant imperceptiblement les épaules, « pourquoi ne demandez-vous pas quelque chose si vous pensez que je ne puis pas vous répondre ?»« Ah, vous êtes bien de Paris, vous, par exemple. Vous oubliez que nous ne sommes pas pendant la saison. » Vexé, je sortis. Le brouillard était opaque, on ne voyait pas la mer. « Un sacré brouillard » fis-je à un pêcheur qui passait près de moi. « Mais, monsieur, me répondit-il en clignant des yeux, c'est toujours comme ça en hiver. Nous mettons un voile sur la mer pour qu'elle soit bien propre pendant la saison pour ces dames de Paris, rapport aux mouches et à la pluie. » Je compris alors combien ma présence en cet endroit était déplacée, et je repartis le soir même pour Paris.